Bonjour à toutes et à tous. Nous débutons ce matin une nouvelle série de prédications intitulée « Les phrases choc » ou « Punchline » de Jésus. L'idée est toute simple. On part d'une phrase connue, surprenante ou subversive de Jésus et on la resitue dans son ou ses contextes évangéliques. En réalité, cette série a déjà débuté au mois d'août lorsque j'ai prêché sur cette affirmation de Jésus « Demandez et vous recevrez ». Peut-on demander tout et n'importe quoi et le recevoir ? Évidemment non. Alors, qu'est-ce que Jésus avait en tête en disant cela? Est-ce que vous vous en souvenez? D'après ce qu'écrit le médecin évangéliste Luc, il s'agit de l'Esprit Saint. Demandez l'Esprit Saint et vous recevrez l'Esprit Saint. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus longuement lors de notre prochain culte digestif. La phrase que j'ai retenue pour aujourd'hui est la suivante. Il faut faire bien attention à ne pas la dire à l'envers. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Et comme vous allez le découvrir, ce deuxième épisode va faire écho à la fois à l'épisode précédent ainsi qu'à l'enseignement proposé dimanche dernier par Prisca Robitzer. Commençons par lire l'unique texte dans lequel se trouve cette formule de Jésus, Évangile selon Marc, chapitre 2, versets 23 à 28. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé, et ses disciples, tout en marchant, cueillaient des épis. Les pharisiens le firent remarquer à Jésus. « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils le jour du sabbat ce qui est interdit ce jour-là » Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons ont eu faim et qu'ils n'avaient rien à manger ? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu. » Ce récit se trouve dans la section où il est question du grand prêtre Abiathar. Il a mangé les pains exposés devant Dieu que seuls les prêtres ont le droit de manger, et il en a donné aussi à ses hommes. Et Jésus ajouta, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat. Père, merci pour ta parole, merci pour ton Esprit Saint, qu'il illumine encore ce matin notre intelligence pour que nous puissions saisir l'actualité de ce texte, afin qu'il nous transforme. Amen. Est-ce que vous vous souvenez, Prisca l'a mentionné dimanche dernier, de la raison pour laquelle Dieu a donné une loi à son peuple? Pourquoi Dieu a-t-il donné une loi à son peuple? D'après le livre du Deutéronome, chapitre 5, verset 33, « Dieu a donné une loi à son peuple pour que celui-ci vive heureux et longtemps. » Heureux et longtemps. La loi est donc un cadeau vivifiant de Dieu, une bénédiction de Dieu pour son peuple. Et le sabbat, le jour de repos consacré à l'Éternel, est un aspect de cette bénédiction, de ce cadeau. Dieu explique clairement les raisons pour lesquelles il offre le sabbat. Lisons ensemble dans le livre de l'Exode, chapitre 20, les versets 8 à 11. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Lisons à présent dans le livre du Deutéronome, chapitre 5, les versets 12 à 15. Observe le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a demandé d'observer le jour du sabbat. Le sabbat, ces versets du livre de l'Exode et du livre du Deutéronome le montrent sans ambiguïté. C'est s'arrêter pour tourner les yeux vers le Créateur, vers celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et c'est s'arrêter pour tourner les yeux vers le Libérateur, celui qui délivre de l'esclavage, esclavage de l'Égypte, esclavage du péché. Qu'est devenu le sabbat à l'époque de Jésus? Le sens du sabbat a-t-il été préservé? Malheureusement, non. Ce qui préoccupe principalement les pharisiens, ce n'est plus de savoir si le Créateur, le Libérateur, est contemplé le jour du sabbat, mais c'est de s'assurer que personne ne va porter sa natte ou ne va cueillir des épis de blé. Les pharisiens ont l'art de se perdre dans des considérations périphériques en s'éloignant progressivement du cœur. À l'époque de Jésus, le sabbat est-il toujours vécu comme un cadeau porteur de vie? Malheureusement, non. Et l'histoire qui suit l'illustre tristement bien. Revenons à l'évangile. Selon Marc, chapitre 3, ce sont juste les versets qui suivent en notre passage. Versets 1 à 6. Chapitre 3, versets 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme avec la main paralysée. On le surveillait attentivement pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat. Il voulait ainsi pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme à la main infirme, « Lève-toi et mets-toi là, au milieu. » Puis il demanda aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal ? A-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire ?» Mais personne ne dit mot. Jésus promena sur eux un regard indigné, profondément attristé par la dureté de leur cœur. Il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'attendit et elle fut guérie. Aussitôt, les pharisiens sortirent de la synagogue et allèrent se concerter avec des membres du parti d'Hérode sur les moyens de faire mourir Jésus. Les pharisiens ont l'art de transformer une bénédiction, une loi vivifiante, en malédiction. Ne nous contentons pas de montrer du doigt les pharisiens. C'est trop facile et inutile. Intéressons-nous plutôt à la poutre qui se trouve dans notre œil à nous. Ne sommes-nous pas, nous aussi, passés maîtres dans l'art de transformer des bénédictions en malédictions? Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Le sabbat, c'est un cadeau vivifiant de Dieu pour les hommes. Ne le transformons pas en maître dur et exigeant auquel nous serions soumis. Le maître unique auquel nous devons nous soumettre, c'est le Fils de l'homme. C'est Jésus lui-même. Le Fils de l'homme est aussi le maître du sabbat. C'est la conclusion de notre passage. Le « aussi » renvoie au verset 10 du même chapitre. Jésus y avait affirmé ceci, « Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Jésus, à travers cette expression énigmatique de « Fils de l'homme », révèle peu à peu sa nature divine à ses auditeurs. Qui a le pouvoir de pardonner des péchés? Dieu seul. Qui est le maître du sabbat? Dieu seul. Le Fils de l'homme, Jésus, est de nature divine. Telle est la portée de ces deux affirmations. Alors, avant de poursuivre, prenons un temps de sabbat. Contemplons le Fils de l'homme. Contemplons le Créateur, le Libérateur. Je reviens à présent à la question que j'ai posée avant de digresser. Ne sommes-nous pas, nous aussi, à l'instar des pharisiens, passé maître dans l'art de transformer des bénédictions en malédictions. La semaine dernière, nous avons réfléchi avec Prisca aux offres de Dieu, aux cadeaux de Dieu. Dieu donne de belles choses à ses enfants, des paroles, des promesses, des charismes, des œuvres préparées d'avance, toutes sortes de cadeaux porteurs de vie, tout cadeau de valeur, tout don nous vient d'en haut du Père des Lumières, écrit l'apôtre Jacques. Mais ces cadeaux, parfaits en tant que cadeaux, ne les aurions-nous pas transformés en maîtres durs et exigeants? Ne serions-nous pas devenus les esclaves d'un cadeau de Dieu? Certains pharisiens étaient esclaves de la loi, du sabbat en particulier. Le sabbat était devenu pour eux un maître intransigeant et il avait rendu leur cœur insensible à la souffrance des autres. Certains chrétiens de Rome étaient peut-être tentés, même si la formulation peut surprendre, de devenir des esclaves de la grâce. Ils étaient en réalité esclaves du péché. « Faisons le mal, disait-il, pour qu'en sorte le bien. » Certains chrétiens de Corinthe étaient sans aucun doute esclaves des manifestations de l'Esprit, les désirant pour eux-mêmes et non plus pour le bien de la communauté, nourrissant ainsi leur orgueil spirituel. Et les chrétiens de Pontivy alors? Sommes-nous meilleurs que ceux qui nous ont précédés? Est-ce que nous évitons les pièges dans lesquels ils sont tombés? J'aimerais bien, mais j'ai du mal à y croire. Alors, acceptons de nous examiner et posons les questions suivantes à Dieu. Seigneur, est-ce que j'ai transformé une de tes bénédictions en malédiction? Est-ce que je me suis placé sous l'esclavage d'un de tes cadeaux? Est-ce que ce que tu m'as donné pour me rendre heureux, je l'ai perverti pour mon propre malheur et pour le malheur de ceux qui m'entourent? Un aspect de la loi peut-être, que j'applique avec rigueur, sans m'apercevoir que j'en oublie le cœur, le sens fondamental. La grâce peut-être. Je peux pécher parce que, de toute façon, Dieu pardonne, non ? Les charismes, les dons de l'esprit qui flattent mon orgueil, au lieu d'édifier les autres, des belles œuvres dont je ne peux plus me passer. On peut encore élargir le champ des cadeaux de Dieu, les amis, un conjoint, une famille. La Bible même peut devenir source de malédiction pour celui qui s'obstine dans des lectures, dans des interprétations enfermantes. Seigneur, est-ce que je me suis placé sous l'esclavage d'un de tes cadeaux? Si vous êtes d'accord, prenons maintenant quelques instants de silence pour poser cette question à Dieu et pour donner la possibilité au Saint-Esprit de nous éclairer à ce sujet.